Exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Au Sahel, la situation sécuritaire s'est-elle améliorée ces derniers mois? Vous êtes au Burkina Faso, au Niger, au Mali, au Tchad ou en Mauritanie. Appelez-nous, vos témoignages nous intéressent, d'autant qu'hier, les dirigeants de ces cinq pays et le président français se sont rencontrés à Nouakchott pour faire le point sur la stratégie adoptée en début d'année lors du sommet de Pau. Rappelez-vous, au mois de janvier, il avait été décidé de renforcer l'opération Barkhane avec l'envoi de 500 militaires français supplémentaires, de concentrer l'action militaire sur la zone dite des trois frontières, Mali, Niger, Burkina, en ciblant en priorité le groupe État islamique au Grand Sahara. Et en six mois, il y a eu, certes, des succès. Plusieurs centaines de terroristes ont été neutralisés, dont le chef d'ACMI, Abdelmalek Droukdel, tué début juin. Hier, le président français s'est félicité de résultats spectaculaires contre les djihadistes. Il a assuré que le rapport de force avait été inversé. Le terrain que nous avons repris ne sera pas cédé, a-t-il affirmé. Et de conclure, la victoire est possible. Alors comment évaluez-vous l'action militaire contre les groupes djihadistes? Partagez-vous le constat du président français? 33 9 693 693 70. Vos réactions sur la page Facebook de l'émission. J'ai sous les yeux par exemple le commentaire de Sceaux. Il affirme que la situation s'est empirée. Nos militaires se font tuer et les enlèvements se multiplient. Un avis partagé par Amadou. Chez nous au Mali, dans la région de Mopti, la situation sécuritaire s'est dégradé, les attaques et les enlèvements se poursuivent, et de citer notamment l'exemple de Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition, kidnappé il y a maintenant plus de 3 mois. Il est toujours aux mains des 3 points de suspension, nous dit cet auditeur. C'est vrai que ce kidnapping n'a toujours pas été revendiqué. Bonjour Abdoul.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Ouagadougou. Partagez-vous l'optimisme du président français?
Il faut dire que, à mon avis, je partage partiellement son point de vue. D'une part, la victoire est possible, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que les défis restent énormes. Voilà. Et s'il dit que on peut se féliciter, et il parle même de victoire spectaculaire, au vu des défaites que ces terroristes nous ont infligées de par le passé, moi, je pense que il faut beaucoup se concentrer sur l'action militaire et ne pas se féliciter. Il est trop tôt pour se féliciter actuellement. Quand on prend, par exemple, le cas du Burkina Faso, on a l'impression que la crise est loin d'être terminée. Le nombre de déplacés internes s'accroît au jour le jour. Il y a des attaques contre des soldats ou des civils presque chaque semaine. Au Mali, par exemple, il y a les attaques. Il y a les enlèvements qui continuent. Et un autre signe aussi de la non-amélioration de la situation est que on a l'impression que la crise est en train de s'étendre vers un autre pays qui est la Côte d'Ivoire.
Voisin du Burkina Faso, notamment cette attaque il y a 2-3 semaines, je n'ai plus la date exacte en tête, mais attaque contre un poste de l'armée en Côte d'Ivoire près de la frontière du Burkina Faso. Il y a par exemple Abdou qui nous dit, il affirme que la situation continue à se dégrader. Pire, la menace se déplace de plus en plus vers les pays côtiers, et il cite notamment cette attaque il y a 2-3 semaines, donc en Côte d'Ivoire. Quand vous entendez donc le président Macron finalement se féliciter des derniers succès, en même temps il n'a pas dit que la guerre était gagnée, mais il dit qu'une victoire est possible, vous vous dites quoi? Qu'il exagère? Qu'il n'est pas au fait de la réalité?
Bon, à mon avis, il n'exagère pas, mais je pense qu'il va un peu vite en besoin. Voilà, je veux dire qu'il va un peu vite en besoin. Et comme je l'ai dit, pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est de mettre un peu l'accent sur les actions militaires à mener sur le terrain. Parce que, comme je l'ai dit, les défis restent énormes.
Oui.
Les défis restent énormes, les attaques continuent, la situation est loin d'être...
Alors, vous dites que la solution, c'est l'option militaire. Taïrou, qui est à Mopti, nous dit, certes, il y a certains succès, mais la solution doit être économique. Le chômage des jeunes est l'une des causes du terrorisme, affirme cet auditeur. Abdoul, merci d'avoir appelé de Ouagadougou. Bonne journée au Burkina Faso. Bonjour Ousmane.
Bonjour.
Partagez-vous le constat du président Macron?
En partie, seulement en partie. Bon, sur la question militaire, peut-être que le président Macron a des renseignements que nous, profanes, nous n'avons pas. Mais il est sûr que ces derniers temps, il y a eu quelques victoires quand même sur les groupes terroristes. Mais au Mali, la situation générale est différente. Je suis d'accord avec mon prédécesseur tout à l'heure. C'est que il y a seulement 2 semaines, 23 militaires maliens ont été tués vers la frontière mauritanienne. Donc c'est difficile pour nous de dire que la situation s'améliore, alors que dans le centre du pays, il y a des massacres dans lesquels l'armée malienne est présumée être responsable d'après les rapports des ONG et autres humanitaires.
Et Ousmane, et vous faites bien d'aborder ce point, parce que autant oui, il y a des succès militaires de la part de Barkhane et des forces de sécurité nationale, mais dans le même temps, les armées locales sont accusées de commettre des exactions contre des civils au prétexte de lutter contre le terrorisme. Il en a été question d'ailleurs hier. Attention aux bavures des armées.
Oui, absolument, mais malheureusement, ces bavures continuent. Ça n'a pas démarré maintenant et c'est contre les populations civiles et particulièrement au Mali. Il s'agit des Peuls, d'une communauté donnée donc. Alors ça, c'est très grave parce que c'est une menace lourde contre la cohésion sociale. C'est une menace lourde contre la paix au Mali et ça mécontente les populations dont les jeunes n'hésitent pas à s'engager aux côtés des terroristes. Donc il faut, parallèlement à la lutte contre les mouvements terroristes, il faut donc travailler pour assurer la paix et la sécurité dans les zones où les populations civiles sont menacées, sont violentées.
Et c'est vrai que nombreux sont les observateurs à dire que ces exactions des armées nationales font, d'une certaine façon, le jeu des djihadistes. Merci Ousmane. 8h46 à Bamako. Je vous souhaite sur place une bonne journée. À Bobo Dioulasso, Casimir, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue Casimir. Vous disiez au Standard, on sent que l'armée burkinabé est de plus en plus engagée.
Si, on le sent vraiment parce que de plus en plus nos FDS, nos soldats arrivent à récupérer de l'armement et du matériel auprès des djihadistes. Et l'aide des volontaires aussi est intéressante. Et de plus en plus, l'armée, avec les FDA, les volontaires, ont enregistré d'importantes victoires contre les djihadistes.
Alors, excusez-moi Casimir, vous êtes au Burkina Faso, vous savez de quoi vous parlez, évidemment. Quand vous dites volontaire, à quoi faites-vous référence ?
Oui, l'État burkinabé a fait appel à des jeunes volontaires dans les zones où les attaques sont récurrentes et ces jeunes qui connaissent bien le terrain et aident les militaires pour le renseignement et même pour affronter les djihadistes.
Oui. Alors ce sont des jeunes qui ont suivi normalement une formation, parce qu'il faut savoir manier les armes évidemment pour aider l'armée face aux attaques djihadistes, mais ça s'apparente tout de même à des sortes de, excusez-moi du mot, mais à des sortes de milices, ces jeunes volontaires armés.
Non, ce ne sont pas des milices là, ce sont des jeunes encadrés par les militaires. Il ne faut pas confondre ces volontaires avec les Kolwego, les groupes d'autodéfense qui ne sont pas vraiment contrôlés par l'armée. Mais les jeunes volontaires ont été formés par les militaires, même si la formation n'a pas duré. Et ils sont bien équipés par l'armée burkinabé.
Et ça permet d'impliquer, et d'une certaine façon, ça permet d'impliquer la population à la lutte contre le terrorisme.
Effectivement, la lutte ne peut pas être gagnée par les militaires seulement. Il faut que la population civile s'engage, ne serait-ce que pour le renseignement, afin que l'armée ait l'information au bon moment pour agir. Et quant à ceux qui se plaignent des bavures, il n'y a pas de guerre propre. Il faut que nous le reconnaissions. Il n'y a pas ce pays-là, dans le monde, il n'y a pas de guerre propre. Il y a toujours des victimes collatérales. À nous maintenant de faire attention pour ne pas créer un peu la zizanie au sein de nos forces de l'ordre, oui. Et si nos forces de l'ordre sont découragées...
J'entends ce que vous dites, mais Amnesty International a publié il y a quelques semaines un rapport justement sur les exactions commises par les armées sahéliennes sur les populations. L'armée est censée être là pour sécuriser, protéger la population. Lorsque vous voyez que des militaires commettent des tueries dans certains villages sous couvert d'opérations antiterroristes, eh bien ça risque, on en parlait tout à l'heure avec un auditeur, de finalement de faire le jeu des djihadistes. Il y a beaucoup de monde au standard. Casimir, merci infiniment. Un détour tout de même sur la page Facebook de l'émission. Il y a Aruna, il nous envoyait un petit message du Niger. Il nous dit que sur place, certains villages sont toujours à la merci des terroristes qui rackettent librement la population. À mon humble avis, nous dit Aruna, la situation reste à l'avantage des terroristes. Nos armées sont dépassées. Elles n'ont pas assez de moyens pour venir à bout de ces hommes. Pire, avec le retrait annoncé des Américains du Sahel, la France et l'Union européenne vont devoir renforcer la formation et le renseignement. Au standard, qui avons-nous ? À Bali, bonjour.
Bonjour, merci d'être parmi nous ici à Abéché.
Ah ben merci de nous accueillir à Abéché, au Tchad, nous vous écoutons. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président Macron lorsqu'il se félicite de progrès, de résultats spectaculaires dans la lutte contre le terrorisme ?
Bon, plus ou moins, hein, je ne suis pas d'accord totalement. Macron est un peu inquiet, il a si bien dit, il a refusé les parallélismes avec une guerre sans fin comme l'Afghanistan. Mais c'est vers cela qu'on est en train d'aller, puisque les discours ne reflètent pas l'image de la réalité sur le terrain. Malgré qu'ils ont jugé leur bilan positif jusqu'à amener le président français à parler d'une victoire possible. Mais reste à savoir si ces homologues africains ont cette volonté de vouloir casser cette machine qui est en marche. Et à cela, on doit aussi voir les choses.
Pourquoi ? Vous en doutez ? Vous en doutez à Bali la volonté réelle des chefs d'État du G5 ?
Ah oui, justement, on n'a pas besoin de le dire. Vous voyez un peu au début, les forces internationales, les forces françaises, présente au Sahel, sont désignés boucs émissaires. Mais aujourd'hui, le projecteur est braqué sur les chefs de l'État, du G5 Sahel, qui ont perdu toute crédibilité. Et ça renvoie un message comme quoi il y a Anguille Souroy, c'est-à-dire jouer un peu un semblant de crédibilité auprès de la communauté internationale pour ne pas être gêné dans leur façon de gérer leur pays. Et ça aussi,
En tout cas, vous faites bien de rappeler, effectivement, il y a encore quelques mois, que ce soit à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, des voix se plaignaient de la présence française au Sahel. Des voix appelaient même au départ des soldats français. On ne les entend plus. Donc ça signifie d'une certaine façon, peut-être, j'en sais rien, on va en parler avec d'autres auditeurs, que ceux-là même qui étaient vent debout il y a quelques mois, aujourd'hui peut-être se dit satisfait de l'action qui est menée sur le terrain. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour les auditeurs, Abdoulaye.
Vous êtes à Niamey, Abdoulaye. Vous parlez-vous d'un demi-succès concernant la lutte contre le terrorisme ?
Oui, pour moi c'est vraiment le succès, pour moi il est partiel. Donc on ne peut pas parler d'un total succès. Vraiment, moi c'est ce que je pense. Je partage à moitié les propos du président Macron.
Et donc, et au Niger, par exemple, est-ce que vous avez constaté, si vous voulez partager donc ces propos, c'est que vous avez constaté une amélioration de la situation dans votre pays ?
Oui, il y a eu amélioration de la situation. Moi, dans mon pays, personnellement, dans mon pays, il y a eu amélioration de la situation parce que tout simplement, il y a eu changement au niveau du chef d'état-major de l'armée. Et...
Allô ? Ah, on a perdu Abdoulaye à Niamey. Bon, on va essayer de le récupérer d'ici de la fin de cette émission. Avant de repasser au standard, nous avons le commentaire de Nano. Nano nous dit, mais c'est du grand n'importe quoi. Les djihadistes frappent même aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Comment peut-on parler de succès ? Également le commentaire d'Abakar, qui est au Tchad. La sécurité du Sahel doit être portée par les forces africaines loyalistes et non par des forces étrangères opportunistes, affirme cet auditeur. Gabriel, soyez le bienvenu, bonjour.
Oui, bonjour Ron Gomez.
Bonjour Gabriel, vous êtes à Bamako, dans la capitale malienne. Êtes-vous d'accord avec les propos du président Macron hier ?
Moi, je partage l'avis du président Macron, dans la mesure où il s'agit d'une évaluation d'une stratégie qui a été mise en place à Pau.
Oui, en janvier.
Je pense que cette intervention du président de la République cherche un peu à influencer et à contrôler les actions sur le terrain. Parce qu'il va peut-être pousser les djihadistes à changer de stratégie. Et j'invite également nos chefs d'État du G5 Sahel et le président Macron à continuer avec cette stratégie d'évaluation des actions sur le terrain.
Oui.
Parce que nous avons vu, les 6 mois après Pau, réellement, il y a eu un grand changement. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas eu de changement, mais c'est vrai, au centre du Mali, c'est une autre situation.
Au centre du Mali, vous avez raison de dire que c'est une autre situation. Un auditeur, si je retrouve son mail, mais sinon j'ai le chiffre en tête, nous rappelait le nombre de victimes selon l'ONU depuis le début de l'année dans cette région de votre pays. Plus de 500 personnes. En fait, le chiffre exact de l'ONU, c'est 580 personnes tuées. Rien que dans le centre du Mali.
Exactement, parce que le centre du Mali, moi, je ne le situerai pas dans le cadre de la lutte antiterroriste. C'est autre chose. C'est pas une question purement djihadiste.
Bien sûr.
Mais ce pourquoi nous avons mis en place le G5 Sahel, moi, je pense que cette stratégie de création du G5 Sahel quand même a porté son fruit, parce que actuellement, les djihadistes ont changé de stratégie. C'est vrai, ils sont en train d'aller attaquer dans d'autres localités, mais si les présidents du G5 continuent avec le président Macron à mettre sur place des stratégies, je pense que nous arriverons à mettre fin, comme le président Macron en dit, à cette question terroriste, que ce soit au Mali ou dans tous les pays du G5 Sahel.
Après, il va falloir
c'est une très belle stratégie.
Alors après, il va falloir débloquer des fonds. Il y a cette promesse, alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais une promesse de 420 millions d'euros destinée à améliorer l'efficacité des armée, cette promesse est restée lettre morte. Hein. Je crois que sur les 420 millions d'euros promis, 100 millions ont été débloqués. Alors c'est déjà pas mal, mais c'est insuffisant.
Moi, je crois que c'est une question de volonté politique. Il suffit juste que, à travers ces évaluations que nous faisons du G5 Sahel, que nous parvenons quand même à convaincre les partenaires qu'il est nécessaire qu'on puisse financer cette lutte antiterroriste parce que ça concerne tout le monde entier et non les pays du G5 Sahel.
Oui.
Parce que tant que nous n'arriverons pas à freiner la lutte, disons l'avancée des djihadistes dans ces pays-là, c'est tout le monde entier qui est menacé.
Merci.
Ça, c'est moi, mon point de vue.
C'est votre point de vue et merci de l'avoir exprimé sur l'antenne de RFI. Bonne journée à vous. Yaya nous dit, quand on regarde le Burkina Faso, avant les terroristes s'attaquaient essentiellement aux bases militaires, maintenant c'est la population qui est ciblée. En plus, l'armée burkinabé commet des exactions contre les civils. On en parlait tout à l'heure, des exactions. Oumar se dit étonné d'entendre les médias internationaux parler de progrès alors que notre cauchemar s'aggrave de jour en jour. Yacouba, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Ouagadougou. On termine avec vous ce débat qui est passionnant. Qu'avez-vous envie de nous dire sur la situation sécuritaire au Burkina, dans votre pays ?
Oui, les défis sont énormes, le premier auditeur l'a dit. Mais moi, j'aimerais surtout insister, pour terminer, sur le manque de responsabilité de nos autorités. En ce sens que vous parliez de fond tout à l'heure, et lorsqu'on parle de détournement de fonds d'équipement au Niger et au Burkina, un ancien ministre de la Défense qui a arrêté pour détournement, moi je vois mal comment, au moment où nos soldats, nos militaires manquent de moyens, comment on arrive à expliquer une situation pareille.
Et notamment
la guerre aussi,
notamment au Niger, il y a une partie très importante des fonds qui étaient destinés à la lutte contre le terrorisme qui a été détournée.
Voilà. Et dans ces conditions, comment on peut se targuer de gagner le combat lorsque nos autorités ne sont pas correctes? Donc, il y a beaucoup de bavures de part et d'autre qui font que la lutte est très longue et le combat n'est pas prêt d'être gagné. Parce que les défis sont vraiment énormes, comme l'a dit le premier auditeur. Et il faut vraiment resserrer. Et en plus, il n'y a pas de coalition interarmée, à ce que je constate. Je n'ai jamais entendu parler de coalition Nigéro-Burkinabé ou de coalition Malo-Burkinabé.
Oui, mais enfin, par exemple, Ivoiro-Burkinabé, oui.
Oui, mais la Côte d'Ivoire ne fait pas partie du G5.
Bien sûr,
mais
les deux pays, les deux armées se sont rassemblées pour mener des opérations conjointes à la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc quand il y a la volonté, on voit bien que les pays peuvent s'unir et lutter ensemble. Yacouba, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Merci infiniment de nous avoir appelés. Demain, nous reviendrons sur un sujet que nous avons évoqué rapidement hier lors de notre émission spéciale 60 ans de l'indépendance de la RDC. Un sujet qui mérite évidemment tout un débat, les regrets de la Belgique pour le passé colonial en République démocratique du Congo. Hier, à l'occasion de cet anniversaire, le roi des Belges a exprimé ses profonds regrets. Il a évoqué les actes de violence, les actes de cruauté commis en RDC lorsque le pays était la propriété de Léopold II. Alors comment réagissez-vous à cette grande première ? On en parlera évidemment demain tous ensemble. Bonjour Igor Strauss.
Bonjour Juan, bonjour.